Nous voulons le dire encore, nous t'aimons, nous t'aimons, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Je t'aime, je t'aime.
Te donne.
Seigneur, je te donne ma vie.
Ma vie. Je te donne ma vie.
Seigneur, je te donne ma vie.
Seigneur, telle est notre déclaration avant l'écoute de ta parole. Nous voulons te dire merci. Merci pour cette deuxième journée. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place en acclamant très fort le Seigneur. Alléluia. Merci, merci bien-aimé. Shalom, shalom. S'il y a une place à côté de vous, je vois qu'il y a une place à côté du frère, du pasteur Patrick. Frère Carlos, est-ce que tu peux te mettre à côté du pasteur Patrick? Comme ça, il y a deux places qui sont libres ici. Et puis, il y a une place qui est... Là où il y a une place libre, prière de lever votre main, s'il vous plaît, comme ça, le service d'accueil va vous aider. Amen. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette deuxième journée. Nous n'allons pas vous présenter l'orateur du jour. J'ai seulement un mot à vous dire. Aujourd'hui, officiellement, nous totalisons 3 ans d'existence. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Voilà. Oui, nous acclamons le Seigneur. 3 ans. Ebenezer. 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 Alléluia. Alléluia. Oui, acclamons ce Dieu qui est capable. Amen, 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 amen. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. 3 ans. 3 ans. Que Dieu soit béni. Je ne crois pas au hasard du calendrier. Mais Dieu, dans son plan précieux, dans sa préscience, a voulu qu'aujourd'hui, que je puisse vous annoncer une bonne nouvelle. Et cette nouvelle est celle-ci, qu'à partir d'aujourd'hui, l'église de la Borne fait partie des assemblées de Dieu de la Belgique. Jésus, nous voulons te rendre gloire. Nous te rendons gloire. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus considérés comme étant une secte pernicieuse. C'est-à-dire nous sommes reconnus comme une église officielle. Et cela, bien aimé, c'est le début du commencement. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Nous sommes en train de mettre à défi ceux qui vont s'opposer à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Les choses sont en train d'arriver. La pierre a été ôtée. La pierre est en train de rouler et elle est en train de détruire tout sur notre passage. Dieu fraye un chemin là où il n'y a pas d'espoir. Nous avons dit cette année, c'est l'année d'éclosion. Je ferai une chose qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et je mettrai de l'eau là où dans les terres arides. C'est ce que Dieu est capable de faire. Alors nous l'acclamons très fort. Ouh! Nous pouvons reprendre place. Alléluia. Des fleuves de la solitude. Le Dieu qui trace des chemins. Yes. Nous pouvons nous asseoir. Ce n'est pas moi qui vais prêcher aujourd'hui. Amen. Je ne voudrais pas, si je dois utiliser un jargon populaire, voler la vedette à l'orateur du jour. Mais nous voulons accueillir un des collaborateurs de l'homme de Dieu. Certains l'appellent Pangui. Comme le pasteur l'a dit aujourd'hui aux ouvriers, il y a des héros cachés qu'on ne connaît pas. Celui qui organise souvent les voyages à l'extérieur du pasteur Dallon, particulièrement en Europe. Aux États-Unis, je ne sais pas qui le fait. Nous voulons l'accueillir, il n'est pas venu seul. Nous voulons parler de papa Cyril et son épouse. Nous voulons les accueillir au nom puissant de Jésus. Mettez-vous debout. Alléluia. Non, ça, ce sont des acclamations timides. Amen. Pasteur Dallo, à vous la parole.
Bonsoir à tout le monde. Ce soir, plus que jamais, J'ai la certitude d'être en mission maintenant ici. La très grande certitude. Mais je voudrais aussi dire que la réunion de ce soir, elle est dangereuse.
Ah, ça c'est
bien. Très dangereuse. L'Esprit de Dieu m'a convaincu clairement qu'après cette intervention, certains auront plus de lumière, mais certains seront dans la confusion. Je ne sais pas dans quel camp vous allez vous trouver, mais moi je veux faire ma part. Je voudrais nous inviter, tout en remerciant encore une fois le pasteur Hugues, ainsi que son épouse et tous ceux qui partagent avec la charge du ministère de l'invitation. Je voudrais vous inviter à lire 4 portions des Écritures avec moi. Et pour votre gouverne, je voudrais rappeler que notre grand thème nous a été donné hier avec les sous-points, les 4 secrets de l'éclosion de l'Église primitive. Et nous avons donné un canevas en disant que le tout premier point, c'était définition et raison d'être de cet enseignement que nous avons abordé dans la totalité hier. Le second point, c'était bref aperçu de l'Église primitive et nous avons essayé hier de l'aborder aussi totalement. Et le troisième point, qui est le plus long, nous avons abordé les 4 secrets de l'éclosion de l'Église primitive et Dieu voulant, nous allons voir un seul secret. Je pensais au départ qu'on allait en étudier 2. Mais ce matin, en priant, j'ai eu la conviction de rester sur un seul et puis voir la possibilité que nous puissions passer simplement un moment de contemplation à la fin. Alors, nous lisons d'abord Zacharie au chapitre 6, au verset 12. Zacharie au chapitre 6, le seul verset 12e. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera, mais soulignez bien, dans son lieu. Et il bâtira les temples de l'Éternel. Il germera, mais il germera quelque part dans son lieu. On peut lire aussi Luc au chapitre 24, au verset 49. Luc 24, c'est le Seigneur qui parle à ceux de l'Église. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais soulignez bien ceci. Mais vous, restez dans la ville. Dites avec moi, restez dans la ville. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous lisons aussi Marc au chapitre 16, au verset 7. Là, c'est l'ange qui apparaît à une femme qui était au tombeau et donne un message à cette femme pour aller donner aux disciples. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Et j'aime bien la dernière phrase, c'est là que vous les verrez comme il vous l'a dit. C'est là, dites avec moi, c'est là.
C'est là.
Nous lisons aussi Actes des Apôtres, chapitre 21, du verset 10 au verset 15. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit des Judées et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains du païen. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ça c'est Luc et j'aime la sincérité de Luc. Il parle de son interprétation de son message. Pour lui, il comprend ce message, ça veut dire qu'il ne doit pas y aller. Nous les priâmes de ne pas aller. Alors, il, c'est de Paul qu'il s'agit, répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Waouh! Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur s'efface. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. J'avais dit, nous abordons le troisième point parmi les secrets de l'éclosion de l'Église primitive et le premier secret de cette Église qui a fait que cette Église puisse s'éclore, c'est qu'il connaissait la puissance du lieu. La puissance du lieu. puissance attachée à la localisation. La puissance attachée aux endroits géographiques. Il est étonnant, comme je l'ai dit en lisant Zacharie chapitre 6, verset 12, une promesse est faite à quelqu'un dont le nom est germe. Et le mot germe veut aussi dire grain. Parler d'un grain, c'est parler d'une chose qui a un potentiel, qui a la capacité de s'éclore, qui, cette chose en elle, a une vie pas visible au départ, mais quand même visible. Il s'appelle germe, il a un potentiel. Mais il dit, ce potentiel sera transformé en réalité, mais à un endroit. Dit à germe, qui n'a pas la capacité de germer partout. Dit à germe, il germera en son lieu. J'aimerais nous dire, nous avons un lieu de germination. J'aime quand Jésus-Christ enseignant dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous montre-t-elle pas des choses? Que des palmiers qui se retrouvent au pôle Nord. Grains de palmiers, mais au pôle Nord. Un endroit où il ne peut pas germer. Déplacez-les géographiquement. Amenez-les pas très loin de chez moi, en Mbandaka. Le même grain, vous verrez le potentiel qu'il y a dedans et qui va sortir pleinement. Mais prenez aussi un grain de pomme, amenez-les à Bolobo. 42 degrés. Vous n'aurez rien du tout. Non pas que ce grain a perdu sa force, mais simplement, il n'est pas là où il doit être. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Êtes-vous là où vous devez être? Il s'appelle germe, mais il a un lieu de germination. Il a un endroit où il est appelé à s'éclore. Et j'aimerais dire que la germination est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui accomplit cela. J'aime ce que Marc chapitre 4, verset 26 à 27 déclare. La germination, c'est l'œuvre de Dieu. Si simplement vous vous trouvez à l'endroit où Dieu veut, vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer. J'aimerais vous dire, vous allez subir tout ce qui va suivre. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre. Waouh, j'aime le verset 27. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe. Et il n'a pas besoin de faire une veillée. Au bon moment, un va germer. Et il ajoute encore, il croit sans qu'il sache comment. Mais j'aimerais aussi, avant de toucher certains points, dire la germination quelquefois prend du temps. Et l'on peut prendre à la légère le faible début. Il est étonnant, en lisant la parole de Dieu, de voir ce que Jésus-Christ présente. J'aime Jésus-Christ comme enseignant. Matthieu chapitre 13, 31 à 32. Merveilleuse parole sortant de la bouche du maître. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Un grain, c'est la plus petite de toutes les semences. Quand on les voit, on minimise. Qu'est-ce donc? Mais dans cette semence, se cache quelque chose de très grand. Mais quand il a poussé, d'autres versions disent, quand il a germé, il est plus grand que les légumes. Il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. L'avantage avec Dieu, c'est qu'il voit l'arbre dans les grains. Et il peut même appeler les grains par le nom de l'arbre. Et vous qui avez un regard différent, vous dites, mais qu'est-ce qu'il voit? Il porte des lunettes différentes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es beaucoup plus grand que ce que ton aujourd'hui t'est dit. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un deux choses. La première, ne te minimise pas. Et la deuxième, ne laisse personne te minimiser. Quelquefois, simplement, il faut laisser les germes ou les grains à la merci de cette créature sortie de la bouche de Dieu, appelée les temps, pour voir le petit grain se transformer en grand arbre. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu entends les tintements de l'horloge, Ça t'amène vers un grand rendez-vous du devenir. Que les gens ne voient pas. Mais que Dieu voit. Un de mes amis aime beaucoup relater cette histoire. Il parle d'un papillon. Il semble que ce papillon était quinoa. Il avait une chenille qui roulait par terre et il a baissé un peu son vol. Et ce papillon quinoa a dit à la chenille, parce qu'il était quinoa, il a dit, là, il n'a pas eu ça. Mais que les oeufs pour moi. Dans quelques jours, tu pourras voler. La chenille dit, ah ouais, puis papa. Ma papa est ça, puis dit, là, il n'a pas eu ça. Et les quinoa aiment bien dire ça, il n'a pas eu ça. Et pourquoi les papillons parlent comme ça? Parce qu'il sait qu'il était une chenille. Il ne pensait pas qu'en lui s'est caché des ailes jusqu'à ce qu'un jour il ait des démangeaisons. Je me redire à une chenille qui est ici ce soir, le temps va te transformer en papillon. Yes. Tu vas germer. Je me redire celui qui roule par terre, à lui et pour lui, Dieu a préparé les hauteurs les plus élevées. Il suffit simplement du temps. J'aime ces deux passages, j'aime souvent les mettre côte à côte. 1 Samuel chapitre 3 verset 7, la Bible est parlant du jeune Samuel. J'aime non seulement la phrase qui est prononcée, mais un adverbe important qui est placé. La Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore. Dites avec moi, pas encore. Aïe, 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 aïe. On aurait dit Samuel ne connaissait pas l'Éternel, toute la phrase est changée. Mais on dit, pas encore. Ça veut dire que c'est une question du temps. Il ne connaissait mais pas encore. Simplement une question de temps. Mais écoutez ce que le temps a fait de cette personne qui ne connaissait pas l'Éternel. 1 Samuel chapitre 9 verset 6. Quel CV. Quel curriculum vitae. Les serviteurs lui disent, voici dans cette ville un homme de Dieu. Waouh. C'est un homme inconsidéré. Deux. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Seul le temps a transformé. C'est la même personne, le même visage, même emballage. Mais quand l'éclosion a eu lieu, la génération a eu lieu, tout a changé. C'est ce que je viens vous dire ce soir. Dieu veut vous amener là. Mais je me redis, il y a une puissance attachée au lieu et à la localisation. Cela me permet d'en mentionner 11 principes ce soir. Et ces 11 principes vont nous aider. Et puis à la fin, vous et moi, nous allons prier de moi dire à ton voisin, retiens bien ces 11 principes. Le tout premier principe, c'est qu'il y a une force attachée aux endroits géographiques. Une force attachée aux endroits géographiques. Il est étonnant de voir qu'en Christ veut prendre rendez-vous avec ses disciples. Reprenez ce passage de Luc 24, verset 49. Qu'est-ce que lui manquerait de dire à ses disciples? Que chacun aille où il veut et le Saint-Esprit les poursuivra là où il sera. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville. Le lieu du rendez-vous, c'est cet endroit. C'est Jérusalem. C'est là que vous aurez ce que j'ai promis. Vous vous déplacerez, ce que j'ai promis va descendre. Vous allez manquer cela. Mais ce que j'ai promis sera à cet endroit. Il y a une puissance attachée au lieu. Dans Marc chapitre 16 au verset 7, nous voyons dans sa pédagogie et le message qui est donné annonce la même chose. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède et il donne un endroit, en Galilée. Et là, il insiste encore. C'est là, dites avec moi, c'est là.
C'est là.
C'est là que vous les verrez. N'allez pas ailleurs. Et la Galilée n'était pas un endroit paisible à vivre en ce moment-là. Mais il dit, c'est là. Il y a une force. Il y a une puissance attachée au lieu. Deuxième principe. C'est qu'il y a un lieu attaché à notre germination pour que nous puissions atteindre la dimension maximale. Il y a un lieu attaché à notre germination pour que nous puissions atteindre la dimension maximale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si nous allions ailleurs, nous aurons une dimension mais moindre. alors qu'une dimension plus grande, là je reprends encore Zacharie 6, 12, dit à mon serviteur germe, c'est là qu'il germera. C'est là qu'il atteindra sa dimension la plus forte. Troisième principe important, c'est qu'à l'endroit de germination est attachée une provision. À l'endroit de germination est attachée une provision. Et nous allons lire en Rois chapitre 17, verset 12, verset 2 à 6, et puis verset 8 à 9. En Rois chapitre 17, verset 2 à 6. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. J'aime quand Dieu nous dirige géographiquement. Il dit, quitte cet endroit. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérites qui est en face du Jourdain. Pas ailleurs. Élie, suis mes instructions. Tu boiras de l'eau du torrent. Waouh, j'aime la fin. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Dites avec moi, là. J'ai donné un cours de géographie au corbeau. Je lui ai dit latitude, nord et longitude à tel endroit. Corbeau, pas ailleurs. C'est là où tu déposeras la provision. Et c'était une époque où les gens mouraient de faim, mais Dieu a donné. Il n'y avait pas de GPS à l'époque, mais le corbeau en avait un. C'est à cet endroit que tu iras déposer. Laissez-moi vous dire, la même personne, Élie, se serait déplacée géographiquement. Les corbeaux viendraient chaque matin et chaque soir déposer du pain et de la viande. Lui mourrait de faim quelque part, maudissant Dieu, alors que son pain et sa viande assuraient quelque part. Je vais peut-être vous choquer, mais je préfère le faire. Dans tout le cas, je pars demain. Je me suis posé beaucoup de questions jusqu'à ce que mon épouse et moi aille faire des études bibliques et théologiques à Nairobi. Je n'ai jamais oublié ces jours. Vous savez, il y a des jours qui vous marquent. J'étais à la chapelle de notre université théologique et je recevais plusieurs sollicitations. Roland vient t'installer à Londres, vient t'installer aux États-Unis. Et j'ai passé ce jour-là à la chapelle. C'est pour ça que je disais hier, aimer la présence de Dieu. Je suis resté de 7 heures jusqu'à 15 heures, couché par terre. Et Dieu m'a dit distinctement, je l'ai entendu comme j'entendrais mon frère Hugues en train de me parler. J'étais seul, je n'avais pas les yeux fermés, c'était réel et c'était vrai. Il m'a dit deux choses, dit Roland, ton lieu de germination, c'est le Congo. J'en parlerai tout à l'heure, il me dit, si tu bouges du Congo, tu vas sécher. La deuxième des choses, il m'a dit, c'est là où tu atteindras ta stature la plus élevée. Soit dit en passant, j'aime pas beaucoup mon pays des fois. Il ne fait pas beau vivre. Quelquefois, c'est dur. Quand je suis ici, j'aime, tout est organisé. Vous ne rencontrez pas des policiers, des roulages véreux. Et quand je parle de ça, j'en sais quelque chose. Il y a 3 ans, j'ai sorti de chez moi. Pour ceux qui se rappellent encore de Kinshasa, j'étais sur le boulevard du 30 juin. Et je devais juste prendre à gauche pour prendre photo Guy. Et j'avais bien clignoté, plus de 15 mètres avant. Et j'arrive à 3 mètres, une femme, policier des roulettes. Ah, tu n'avais pas clignoté. J'ai dit, mais madame, c'est encore en train en retard. Ouvre la portière, je t'amène au bureau. Faute, je voulais parler. Désobéissance au personnel policier assermenté. J'ai dit, hey, là, j'ai déjà ajouté encore rien, sinon il y aura infraction sur infraction. Heureusement, je venais de prêcher, j'avais ma Bible là. Et quand elle est montée, j'ai démarré. Elle m'a regardé à l'ingala. Non, mon aïe, wap. J'ai dit, mon aïe, pas été. Toqué dans le bureau. Il dit, non, tellement non. Non, mon aïe, wap. Je t'ai vu. Il dit, osa pasteur, une amie maman, toqué dans le bureau. Puis il me dit, hop, pasteur Dalo. Je dis, oui. Il dit, pasteur, au clignotant, il n'y a il dit, tu avais clignoté. Mais il me dit, pasteur, non, non, Zala. Et puis il dit, que je te dise la vérité, je ne passe sur la route. Normalement, je travaille au bureau, je suis secrétaire du colonel. Je lui ai demandé, donne-moi quelque chose à manger. Il dit, toi, avec la tenue, tu meurs de faim. Il sort sur la route et puis va te servir. Et il dit, Nazaro, Barao, Nako, Bima, Liboso, Nakangika. Et le comble, c'est que le premier, c'est moi. Des petites choses comme ça, quelquefois, font que des fois, je n'aime pas trop. Je vous hisse à l'aéroport, tout est organisé. Mais dès que tu atterris, je dis, yo, yakawa! Chaque fois que je rentre, je dis, ah, Mfumunza, ou tout ça, dis ça. Mais c'est mon là. C'est mon là. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. C'est mon là. C'est l'endroit des germinations des Roland Dallo. C'est mon lieu d'éclosion. C'est l'endroit où je vais atteindre la stature la plus élevée. Et j'ai même l'impression que je peux encore atteindre la moitié. C'est là mon là. Je te nourrirai où? Là. Aide-moi à poser la question à ton voisin, mais ne laisse pas répondre. Ton là, c'est où? J'ai ordonné à un corbeau de te nourrir où? Là. Mais Seigneur, je n'étais pas là quand tu parlais au corbeau. Je leur ai donné des ordres. Je leur ai dit, j'ai quelqu'un que je vais nourrir et je passerai par toi. Seigneur, aide-moi à être à mon lieu de germination. Aide-moi à ne pas bouger. Toujours en Roi 17, versets 8 à 9. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Waouh. Et qu'est-ce que j'aime ça? Demeure là. D'autres versions disent, enracine-toi là. Il y a une puissance de Dieu. Qu'il y ait des gens qui se déplacent n'importe comment. J'aimerais dire, Dieu ne va pas vous suivre là où vous allez. Dieu veut que vous les suiviez là où il veut que vous alliez. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir à cet endroit-là. J'ai donné des ordres. Quatrième, un principe, être à un endroit autre que celui de notre germination, c'est sécher jusqu'à manquer de la sève. Être à un endroit autre que le lieu de notre germination, c'est sécher et manquer de sève jusqu'à sécher complètement. J'aimerais nous dire, ne nous déplaçons pas n'importe quand et n'importe comment. J'aimerais qu'on lise Luc chapitre 10. Elle est assez longue la lecture, mais je pense qu'elle vaut la peine. Du 11e verset au 20e, et puis nous prendrons aussi la fourchette allant du verset 21 à 22, mais ça on lira après. Pardonnez-moi, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, voilà. Du verset 11, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Puis des jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit, dit avec moi, partit. Il avait une condition. Il avait un standing de vie. Prince dans une maison. Ayant des serviteurs. Mais un simple déplacement géographique a transformé le prince en mangeur de carouges. Un simple déplacement géographique. J'en ai assez de cet endroit. Je ne veux plus rester ici. Il ne connaissait pas la puissance du lieu. Non, je vais quitter cet endroit. Il partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ses pays et il commença à se trouver dans le besoin. Ouf, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Waouh, quelle déchéance! Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ah, j'ai prié que quelqu'un fasse cet exercice ce soir. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Et j'aime ce qu'il dit. Il comprend la nécessité de se déplacer. je me lèverai. J'irai vers mon père. C'est-à-dire, je changerai les localisations. Je retournerai à l'endroit où j'aurais dû être. Et les plus étonnants, versets 21 à 22, autant un déplacement l'avait séché, autant un retour à l'endroit initial l'a de nouveau mis dans la position de prince. J'aime ce que la Bible dit. Mon père, je péchais contre les cieux et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-moi vite la plus belle robe. J'aimerais dire à quelqu'un, déplace-toi simplement, une robe t'attend. Revêtez ce jeune homme. Mettez-lui un anneau au doigt. Pourquoi rester avec les cochons alors qu'il y a un anneau qui t'attend? Et des souliers aux pieds. Je ne veux pas sécher. Je ne veux pas sécher. Je le crois, certains d'entre vous, votre lieu de germination, c'est ici. Mais d'autres, vous avez un autre endroit. Peut-être plus loin au nord, aux États-Unis, au Canada, peut-être dans un autre pays. Mais combien il est bon de connaître cet endroit. Place-moi aussi les passages de Ruth. Ruth au chapitre 1er, versets 1 à 5, et puis versets 19 à 21. Une famille, avec un homme qui s'appelle Élimélec. Le nom d'Élimélec veut dire « Dieu est mon sauveur ». Et puis il y a un problème qui se pose. Élimélec et sa famille habitent Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. La maison qui ne connaissent jamais la disette. Ah, mais la Bible a dit « Du temps de juge, il y a eu famine dans le pays. » Famine où c'est à Bethléem. Un endroit supposé n'est jamais manqué du pain. Et cet homme, waouh, malheureusement parti avec sa femme et ses deux fils. Waouh, soulignez bien cela. Pour faire un séjour dans le pays, dites avec moi pour faire un séjour. L'original veut dire pour rester un petit moment. Dans leur pensée, c'est on ne va pas rester longtemps. Juste le temps de solutionner ces problèmes. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Malclon. Et qu'ils ont. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. On avait dit, arrivés au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Les théologiens disent que traduction, quelquefois, veut dire trahison. C'est-à-dire, plus on traduit, plus on s'écarte de la pensée originale. Dans la traduction que nous avons, il dit, arrivés là-bas, ils y fixèrent leur demeure. Mais les versions les plus anciennes disent, arrivés là-bas, leur demeure les fixa. Parce qu'ils étaient venus pour un séjour, trouvant juste une solution, et puis rapidement, la puissance du lieu les a gardés. Le but, c'était quoi? Quittons Bethléem et allons à Moab pour trouver la solution. Mais ce qu'ils pensaient être l'endroit de la solution est devenu un endroit des problèmes. Écoutez ce que le verset 3 dit. Élimélec, mari de Naomi, mourut à l'endroit de la solution. J'aime beaucoup ce que mon pasteur, le feu pasteur Vernon, a dit. Il a dit, s'ils seraient restés à Bethléem à cause de la famine, ils auraient maigri, mais ils seraient restés vivants. Maigres, mais vivants. Mais ils se sont déplacés, ils ont pris de l'embonpoint, mais ils sont morts l'un après l'autre. Naomi, Élimélec, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Verset 4, ils prirent deux femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa, et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 5, Maclon et Kiljon moururent aussi. Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. L'endroit supposé être l'endroit des solutions est devenu l'endroit des problèmes. Et quand elle apprend que Dieu a visité Bethléem, elle dit, je dois retourner. Écoutez ce que les versets 19 et 21 disent. Combien de fois nous blâmons Dieu pour des choses pour lesquelles Dieu n'a rien fait? Elles firent ensemble. Il s'agit de Naomi et Ruth. Ensemble, ils voient jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, waouh, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi. Naomi veut dire radieuse. Rayonne. Elle dit, ne m'appelez plus radieuse. Ne m'appelez plus celle qui rayonne. Appelez-moi Mara, amertume. Écoutez ce qu'elle dit, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Est-ce que c'est Dieu vraiment? Waouh. Et écoutez ce qu'elle ajoute au verset 21. J'étais dans l'abondance à mon départ. Bon, c'est vrai. Si tu étais dans l'abondance, pourquoi tu es parti? J'étais dans l'abondance et l'Éternel me ramène les mains vides. Je me redis à une Naomi, quelquefois il faut apprendre à rester à Bethléem. Parce que même si Bethléem est visité par la famille, il y a toujours un temps où Dieu visite de nouveau Bethléem. Si vous êtes à l'endroit où Dieu ne veut pas, vous allez sécher. 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 C'est pour cela en commençant, j'avais dit cette réunion, elle est dangereuse. Mais j'ai dit, heureusement, je pars demain. Est-ce que je peux continuer? Cinquième principe, c'est qu'il y a des endroits qu'il ne nous faut jamais quitter. Il y a des endroits qu'il ne nous faut jamais quitter. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les pressions humaines, quelle que soit la précarité, quelles que soient les difficultés. J'aime dans Ecclésiaste chapitre 10 au verset 4, tu peux me placer ce merveilleux passage, Ecclésiaste chapitre 10 verset 4, il y a des endroits où nous ne devons jamais, au grand jamais bouger. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place. Il y a des places quelquefois à ne pas quitter, quelle que soit l'adversité, ne quitte point ta place. La Bible dit, car le calme prévient des grands péchés. Et le terme péché, ici tel que c'est utilisé en araméen, ça veut dire déviation. Passer à côté. Rester à l'endroit où Dieu veut va te prévenir de la déviation. Il est étonnant, quand nous lisons Luc chapitre 24, que j'ai mentionné verset 49, quand Jésus dit aux disciples, mais vous restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. À ce moment, Jérusalem était invivable. Jésus-Christ vient d'être pendu et on fait la traque de ceux qui appartiennent à Jésus. Mais bizarre, c'est à cet endroit qui leur fixe les rendez-vous pour recevoir le Saint-Esprit. On voit nous-mêmes en Béthanie. Là, c'est un peu plus calme. Jérusalem, c'est le siège des institutions. C'est là où les Sanhédrin se trouvent. Et c'est là où tu nous veux. J'insiste, il y a des endroits qu'il ne faut jamais quitter. Quelle que soit l'adversité. Il y a des églises qu'il ne faut pas quitter. Il y a la proximité des hommes de Dieu qu'il ne faut pas quitter. Il arrive des fois, notre bénédiction est attachée au genre de message que nous entendons. Est-ce que je peux continuer? Sixième principe. Il y a des endroits où Dieu nous veut, mais pour un temps. Et pour une saison. Il y a des endroits où Dieu nous veut pour un temps. Ou pour une saison. Et j'aimerais aller plus loin en disant, quelles que soient les conditions bonnes attachées à cet endroit, si le temps de quitter cet endroit arrive, il faut bouger. Il arrive des fois, Dieu nous veut un endroit pour un temps, mais nous sommes tellement bien, on ne veut pas quitter. Il y a des endroits où Dieu nous veut pour un temps. Deutéronome chapitre 1, verset 6 au verset 8. J'aime beaucoup comment Dieu parle à son peuple. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Et tous les messages dans l'adverbe, reviens au verset 6, tous les messages dans l'adverbe, assez. Il les blâme non pas d'avoir passé du temps à cet endroit, mais il les blâme d'avoir passé plus de temps. C'était ma volonté, il quittait l'Égypte, obligatoirement il devait passer par Horeb. Et dans la pensée de Dieu, Horeb, étape. Comme on dit, je vais à New York, mais via Nairobi. Le via ne doit jamais devenir destination finale. Il arrive des fois d'où nous venons, c'est tellement précaire, le via est tellement bon, on s'est content du via alors qu'on doit aller plus loin. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. C'était ma volonté que vous quittiez l'Égypte, que vous passiez par Horeb. Mais Horeb n'est pas votre destination finale. Combien de fois, quand on a tellement reçu les fouets de l'Égypte et qu'on arrive à Horeb, ouf, qu'est-ce que c'est bon. Horeb n'est pas ton endroit. Il y a Canaan, les pays où coulent les laits et les miels. Et Dieu ajoute au verset 7, tournez. Et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce soir, tourne, pas. Et il ajoute, allez à la montagne des Amoriens, dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi. J'aime le verset. Vous voyez, j'ai mis le pays devant vous. Pourquoi tu t'arrêtes là où je ne voulais pas que tu t'arrêtes? Il y a plus que ça. Tournez, allez. J'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession. Il y a des endroits où Dieu nous veut, mais pour un temps. Et je me rends insister ce soir. Apprenez à bouger avec Dieu quand Dieu bouge. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Dieu donne un chronogramme géographique. Il aligne même comment géographiquement l'église primitive est appelée à se mouvoir. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Hein, où c'est? Et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Il a donné un chronogramme. Vous commencerez là, et puis vous allez bouger. Étonnant. Quand on arrive dans Actes 8, cela fait plus de 15 ans que le Saint-Esprit est descendu. Et celui qui avait donné le programme regarde, il dit, 15 ans après, ils sont encore à Jérusalem. J'ai appris ces principes. Je préfère bouger seul sans le fouet de Dieu. Parce que si vous ne bougez pas, Dieu utilisera Saül pour vous faire bouger. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1 puis verset 4. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut en ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. J'aime la suite. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées et ils suivent les mêmes chronogrammes. Mais ils n'y vont pas de bon gré. Dans les contrées de la Judée et de la Samarie, mais avec les fouets. Sauf qui peut. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Mais j'aimerais dire avec les fouets. Bouge avec Dieu. Et si vous ne bougez pas avec Dieu, Dieu vous fera bouger. Dieu est tellement jaloux de ses plans. Quand il vous veut, vous mouvoir avec lui et que vous ne le faites pas, il vous fera bouger. Et très bien, vous êtes à quel principe? Sixième. Septième principe, il y a des endroits où Dieu ne nous veut plus. Et va utiliser des moyens pour attirer notre attention afin que nous puissions bouger. Il y a des endroits où Dieu nous place, mais il sait que c'est pour une saison, c'est pour un temps, et puis après il va utiliser des conditions pour que nous puissions bouger. Et comprendre quand Dieu était faible. Je vais vous choquer, mais j'ai dit, je pars demain. Certains d'entre vous, Dieu vous a voulu ici en Europe. Mais votre véritable lieu d'éclosion, c'est chez moi au pays. Après un moment, il faut rentrer. Il y a quelques-uns, Dieu vous a envoyé, c'est seulement pour que cet endroit soit un tremplin pour les enfants. Vous les lancez, après retournez. J'entends quelqu'un dire, il fallait na yawate, nzamba gaboya. J'avais dit au début, certains sortiront d'ici avec plus de confusion que de lumière. Mais Seigneur, trouble-les encore davantage. Qu'il manque de paix jusqu'à ce qu'il bouge avec toi. Même si tu ne dis pas Amen, moi, je dis Amen. Genèse 31, verset 2 à 3. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On y prend point garde. J'aime où Jésus-Christ parle à ses disciples et dit, pourquoi ne comprenez-vous pas les signes du temps? Il arrive des fois, Dieu ne parle pas de manière audible. Suite-moi l'endroit que tu aimais, tu n'aimes plus. Tu n'arrives pas à comprendre. Comme je me dis, certains veulent toujours que Dieu leur puisse leur envoyer un mail. Un mail signé nkolo@yahoo.fr. Ça rentre dans ton mail, tu dis, oh! Nkolo m'a écrit! Un email vraiment signé nkolo@ le créateur du ciel et de la terre m'a envoyé un mail. Bobo monanangai, tant on a eu ici, signé le Père de Jésus-Christ. Des fois, ça sera simplement un sentiment. Au même endroit où tu étais bien, tu as comme l'impression d'être trop plein. Tu sens que c'est fini. J'ai prié une bonne partie de cette matinée. J'ai dormi tard hier. Mais bizarrement, je me suis réveillé tôt, j'ai prié, Seigneur, parle à quelqu'un comme jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, condition qui t'attend quelque part. Tout à l'heure, quand nous allons prier, certains doivent poser la question à Dieu, Seigneur, dois-je encore rester ici? What next? Où me veux-tu après? Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, n'était plus envers lui comme auparavant. Jacob est venu chez Laban, les mains vides. Il dit, j'étais venu si tenant un bâton, mais maintenant je forme deux camps. Mais ce qui est bizarre, au même endroit où Laban l'aimait, il s'est rendu compte que les rapports ont changé. Celui qui était complice avec lui, celui qui l'aimait a changé vis-à-vis de lui. C'était un langage de Dieu pour dire, ton temps ici est fini. Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi quand mon temps est fini. Aide-moi à comprendre quand il faut que je bouge. Et concernant Jacob, Dieu merci, il a eu la grâce de Dieu. Quand il n'a pas saisi le message du visage de Laban, Dieu l'aimait tellement, il dit, je dois te parler. Verset 3. Elle dit à Jacob, retourne au pays de tes pères. Et dans ton lieu de naissance, j'essaierai avec toi. Le premier message, c'est le visage de Laban. Combien de fois Dieu nous parle par le visage de Laban? Et nous sommes émotifs, pleins d'émotions. Il a tellement fait, Dieu dit, bouge. Et Dieu lui a parlé. Et quand il est arrivé là-bas, quand il y a un principe maintenant, huitième principe, c'est qu'il y a des endroits que Dieu nous fera quitter, juste pour un temps, mais avec le but de nous cacher, de nous protéger. Mais après, il nous fera retourner à l'endroit du départ. Combien de fois Dieu nous amène quelquefois à un endroit pour nous cacher et nous prenons tellement plaisir que nous y restons. Il y a des endroits, Dieu nous fait déplacer. Et ce texte m'a toujours étonné. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Waouh! La première fois que j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais c'est étonnant. Comment Dieu, que la Bible appelle est tout puissant, peut-il prononcer de tels mots? Écoutez ce que Dieu dit par l'ange. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère. Waouh! Fuis en Égypte. Mais Seigneur, tu peux écraser Hérode, non? Dieu dit, fuis. Kima. Katambang. Les vrais quinois chez moi disent, tout l'amour ici. Kima. Fuis. Et celui qui parle ainsi, c'est Dieu. Est-ce que Dieu n'avait-il pas la capacité de le protéger? Quand Dieu dit fouille, il faut le faire. Déplace-toi. Mais j'aime ce qu'il dit. Reste-y jusqu'à ce que je te parle. Sois en alerte. Quitte cet endroit, va vers cet autre, mais sois à mon écoute. Cet endroit n'est pas un endroit permanent. Pourquoi? Car Hérode chercherait les petits enfants pour les faire périr. C'est parce qu'on te veut du mal. Le but de ce déplacement, c'est une protection. Le but de ce déplacement, c'est de garder. Verset 14, Joseph se leva, eut les petits enfants et sa mère, et se retira en Égypte. Verset 15, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Et Dieu savait que le destin de Christ pour accomplir la mission que Dieu voulait, il devait être en Israël. Mais pour la protection, lui-même l'a déplacé en Égypte. Il serait resté en Égypte, il n'aurait pas accompli sa mission. C'est pourquoi nous prenons le verset suivant, 19 à 23. Quand Hérode fut mort, le même Dieu qui avait dit, fuis, voici un ange du Seigneur apparu à Joseph en songe en Égypte et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Le même qui avait dit, fuis, il dit maintenant, retourne, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Et j'aime la suite. Joseph se leva, prit les petits enfants et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Va même jusqu'au verset 22. Mais ayant appris qu'Archélus régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignait de s'y rendre et divinement averti. Qu'est-ce que j'aime ça? Le Seigneur avertit encore aujourd'hui. En songe, il se retira dans les territoires de la Galilée. Il est toujours en Israël, mais il ne va pas en Judée, il va en Galilée. Il y a des endroits qu'il nous faut quitter, mais juste pour un temps. Mais nous devons savoir que nous devons y retourner. Neuvième principe, il y a des endroits d'où les gens nous feront partir, mais Dieu nous fera retourner. Parce qu'à cet endroit est attaché notre destin. J'aimerais dire, Dieu est tellement fort pour vous faire retourner là où les hommes vous déracinent. Si votre germination est attachée à un endroit et si les gens, au cours de leur mauvaise foi, mauvaise volonté, vous déracinent, le Dieu de la Bible est suffisamment fort. Le Dieu de la Bible, c'est un metteur en scène. Il vous fera retourner à l'endroit où, un, il vous veut, mais à l'endroit où est attaché votre destin. Juges chapitre 11, versets 1 à 6. Merveilleux passage. Parlant de Jephté. Qu'est-ce que la Bible dit? Jephté le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephté. Verset 2. La femme de Galade lui enfanta des fils qui devenaient grands, chassèrent Jephté. Et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephté s'enfuit, loin de ses frères. Il habita dans le pays des Tob. Ce n'est pas un endroit où il voulait, mais c'est un endroit où il devait. Un endroit que les circonstances lui ont imposé. La Bible ajoute encore, des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephté. Il avait comme proximité, non pas des gens qu'il avait choisis, mais des gens que les circonstances lui ont imposés. Et les versets ajoutent encore, il faisait avec lui des excursions. Il faisait non pas ce qu'il voulait, mais ce qu'il devait. Il vivait au rabais. Verset 4, quelques temps après, dites avec moi, quelques temps après. Je me suis rendu compte sur le chemin de la vie que Dieu se sert du temps pour corriger des choses. Quelques temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Dieu est un metteur en scène. Il peut provoquer des circonstances simplement pour atteindre ce but avec vous. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, bizarre, les anciens de Galade allèrent chercher, j'aime ça, ils allèrent chercher Jephté au pays de Tob, les mêmes qu'il avait chassés. Nous ne voulons pas de toi. Ils sont venus les chercher. Et ils dirent à Jephté, viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Amon. J'aime les côtés pleins d'humour de Dieu. On l'avait chassé pour qu'il ne règne pas sur une famille. Et Dieu le fait retourner pour régner sur un pays. Ça, c'est Dieu. Fantastique. Il y a des endroits où les gens vous feront quitter. Mais Dieu vous fera retourner. Et vous fera retourner avec force. Dixième et avant-dernier principe. Il y a des endroits où les hommes, à cause de leur méchanceté, vont vous envoyer. Mais Dieu va transformer ces mêmes endroits en lieu de germination. Ils croiront que c'est le cimetière de votre vie, mais Dieu en fera un tremplin. Ils croiront que c'est le lieu de votre enterrement, mais Dieu va se servir de ça avec sa capacité de transformation et en faire un lieu de décollage. Je me suis rendu compte sur le chemin de la vie que derrière quelqu'un rejet se cache quelquefois la direction. On vous rejette et Dieu s'en sert pour vous diriger. Genèse chapitre 38, verset 20, les frères de Joseph voient Joseph venir, ils ont un premier projet. Le premier projet, la Bible dit, c'est dire l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent, venez et tuons-le, on doit les tuer. Deuxième projet, ils se disent, est-ce qu'on les tue, on ne les tue pas. Genèse 37, 26 à 27, une deuxième proposition est faite, c'est pas bon de tuer notre frère. Vendons-le aux Madianites. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère chez son sang? 27. Vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutaient. Dans leur réflexion, la vente dans un pays étranger était quasiment voisine de la mort, c'est pas jumelle. C'est presque une mort. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils ont envoyé Joseph à son lieu de germination. Et j'aime ce que Genèse 45, verset 5 dit. Des années plus tard, Joseph voit ses mêmes frères. J'aime les propos qui sortent de sa bouche. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Waouh! J'aime ce qu'il dit à la fin. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Il ne dit pas votre méchanceté. Que Dieu m'a envoyé. Derrière ces rejets, il y a une direction. Toujours Genèse, chapitre 50, au verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 50, verset 20. Il parle à ses frères. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour vous sauver, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Le plus important, ce n'est pas ce qui vous arrive. Le plus important, c'est comment vous réagissez. Je termine avec ce dernier principe. Je demande déjà aux musiciens de venir tout à l'heure. Parce que j'ai à cœur que nous puissions. Écrivez peut-être d'abord le dernier principe et puis vous allez venir. Tout dernier principe. Il est bon d'apprendre à bouger lorsque Dieu bouge. Mais il est bon d'apprendre à ne pas bouger quand Dieu ne bouge pas. Et ça, Israël en connaissait les secrets. Israël connaissait la puissance qu'il y avait attachée au lieu. Bouger avec Dieu. Et ne bougez pas quand Dieu ne bouge pas. On va lire et on termine par là. Nombre chapitre 9, verset 17 au verset 23. La première fois qu'on est nouveau converti, j'ai lu ce passage. Quelle richesse! Waouh! Écoutez ce que la Bible dit. Jusqu'au verset 23 tout à l'heure. Quand la nuée s'est levée, les musiciens peuvent vous avancer maintenant. Non, non, je voudrais qu'on recommence tout à l'heure avec le merveilleux cantique que notre pasteur avait entonné. N'apaisie. On va recommencer par là. Quand tout à l'heure je vais finir, je voudrais dire en les 10-15 minutes qui vont suivre que chacun réponde à ce message en se mettant devant Dieu. Debout, à genoux, assis. Et si d'aventure ça ne vous a rien fait, vous voulez croiser les jambes en nous observant, faites-le. Mais que chacun réagisse. Si vous sentez le désir de vous coucher, de parler à Dieu, si vous voulez lui poser les questions, faites-les. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Waouh! Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Toutes leurs motions étaient liées à la nuée. Verset 18, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur les tabernacles. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela. C'était un peuple nomade. Et ils avaient des tentes avec des socles qu'il fallait placer. On dit que pour placer une tente, ça prenait entre 1 heure et 1 h 45. Et il arrivait des fois, ils ont commencé le processus de placer les tentes et les socles. À peine ils veulent terminer, ils voient la nuée, toi aussi. Tu aurais dû nous dire qu'on n'allait pas durer. Ils partaient. Quand la nuée restait longtemps sur les tabernacles, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Dites avec moi, ne partaient point. Aïe, aïe, aïe. Verset 20. Et quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Verset 22. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Quand ils s'élevaient, ils partaient. Verset 23. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Jeune dans la foi, comme je l'ai dit, je cherchais à dépendre de Dieu. Je dis, la semaine passée, j'ai eu 50 ans. Je me suis attaché au Dieu de la Bible et quand j'avais 20 ans, j'ai appris à l'écouter. Tout jeune au début de ma foi, quand j'avais à peine 21 années, il m'a donné ce merveilleux passage des psaumes 32 au verset 8. Passage qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui, on peut le placer. Ça c'est mon passage clé. Dieu me l'a donné, j'avais 21 années, cela fait 29 ans. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Quand je regarde en arrière, les choix de ma vie, les décisions, j'ai béni le Dieu de la Bible d'avoir été mon conseiller. Que des fois j'ai eu des sollicitations, viens à cet endroit, viens à tel autre. Je me redirai à quelqu'un ce soir, le Dieu de la Bible parle. Il dit, vous entendrez ma voix. Je vous dirai, va à gauche et va à droite. Je ne sais pas comment vous allez réagir, mais je voudrais que toi et moi, nous puissions prendre pour un moment la position qui nous semble la meilleure et réagir à ce message. Mais j'aimerais dire, nos lieux ont une puissance.
Alléluia.
Es-tu là où Dieu veut que tu sois? Est-ce que le temps pour toi de t'émouvoir n'est-il pas arrivé? Est-ce que tu ne sens pas que tu es en train de sécher? Est-ce que tu ne vois pas ce feu vert que l'Esprit met pour toi pour dire « Démarre !» Est-ce que tu ne vois pas le visage de Laban qui a changé pour te dire « Il est temps que tu bouges. » Est-ce que tu regardes la nuée? La nuée est déjà partie. Pourquoi es-tu resté? La nuée n'a pas bougé. Mais pourquoi toi tu as bougé? Regarde. Tu es en train de sécher. Regarde. Tu aurais pu être et avoir mieux et plus que ce que tu as. Dis à mon serviteur qui s'appelle Germe, il germera, mais en son lieu, un lieu que j'ai choisi, un lieu que j'ai décidé.
Yeah.
Deux à deux, pas côte à côte, mais l'un en face de l'autre. Et tu vas prier pour ton voisin, ta voisine, alors que les synthés, la guitare continuent à jouer par rapport à ces choses qui ont été enseignées. Prie pour lui, Seigneur, si son lieu de germination c'est ici, garde-le, qu'il ne bouge pas. S'il doit bouger, parle-lui. Alléluia. Oh. Tout mi boyer sous ma scie, chante de
moche. Oh, je prie, Seigneur, je prie ta parole.
Bonne chose, on fait du dépôt. La fête est placée ici. Son potentiel est en train de
prendre
une dimension qu'il n'avait pas
oublié.
Est-ce que c'est pour toujours que tu le veux ici? Est-ce pour un temps?
Alléluia,
combien de temps?
Pour ton vivant,
il ne t'attend pas.
Il ne sache.
Il
doit
être. Quand?
Alléluia, oh, oh, oh. Alléluia, oh, oh, oh. Tumbiwa Yesu Masia. Bukai mube pa bulobe. Chiva makumanya zambiwa. Alléluia, oh, oh, oh. Tumbiwa Yesu Masia. Bukai mube pa bulobe. Chiva makumanya zambiwa. Alléluia, oh, oh. Tumbiwa Yesu Masia. Bukai mube. Alléluia, oh, 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 oh,
calcule de Dieu, 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 calcule de Dieu.
Alléluia, oh, 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 oh,